Delegates, can we take our seats?
Mesdames, Messieurs, nous allons reprendre nos travaux. Veuillez vous installer.
Welcome back from the health break.
Nous allons reprendre nos travaux.
We are moving on to agenda.
Et nous passons maintenant au point 6 de l'ordre du jour, et il s'agit de la partie B. Il s'agit des questions découlant de la FAO et de l'OMS, examen des demandes d'avis scientifiques. Les documents qui nous concernent sont le CX bar CAC bar 11, 34 bar 15. Et donc nous examinons la partie 3 de ce document.
I see the flags of FAO. FAO, please. Thank you very much.
La FAO? Non? L'OMS.
This presentation. WHO, please.
Thank you very much. In the interest of time, I will not go through.
Merci. Vous avez tous les détails dans le document. Il y a dans l'annexe page 7 du document anglais, vous avez la liste. La liste des avis scientifiques demandés pour les différents comités du Codex. Il y a des demandes. Les différents comités, additifs alimentaires, contaminants alimentaires, etc. Enfin bref. Ce que je voulais dire, c'est que chaque demande d'avis ne concerne pas une demande d'évaluation. Il s'agit de l'ensemble de la liste prioritaire telle qu'elle est mentionnée dans le rapport des différents comités. La seule remarque que j'ajouterais, c'est que, outre les 10 éléments qui sont mentionnés dans la liste, il y en a un autre qui n'a pas pu être intégré au moment où le document a été préparé. Il s'agit d'une demande qui concerne le comité du poisson et des produits de la pêche. Il s'agit de procéder à une évaluation des risques concernant l'histamine dans le poisson. Voilà, bon, c'est pas le titre complet, mais quoi qu'il en soit, nous allons prévoir une consultation d'experts pour examiner les aspects microbiologiques et chimiques concernant notamment la formation de certaines amines biochimiques en vue d'harmoniser les normes différentes qui existent pour les poissons. Voilà. Je reste à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions, Monsieur le Président.
Thank you very much.
Merci beaucoup à l'OMS. Est-ce que vous avez des commentaires? Nous avions déjà discuté de cette question particulière mardi, c'est-à-dire que nous avions dit qu'il fallait accroître le soutien pour les avis scientifiques, et un certain nombre de demandes d'avis ont été présentées. Et donc nous avons dit qu'il fallait qu'il y ait des fonds pour soutenir ce travail qui doit être fait par la Commission. Donc nous allons simplement réitérer la conclusion qui avait déjà été tirée mardi, c'est-à-dire que nous allons demander ou inviter les membres de la Commission à apporter un soutien à la FAO et à l'OMS pour assurer l'élaboration continue des avis scientifiques et leur utilisation dans le cadre du système du Codex. Merci beaucoup à l'OMS, merci beaucoup, mesdames, messieurs les délégués. Voilà, donc nous avons terminé maintenant l'examen du point 6 de l'ordre du jour, et nous passons au point suivant, numéro 7. Et à cet égard, eh bien, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de présider. Et maintenant, je rends la présidence à Karen. Merci.
Thank you very much, Vice Chair Maniendo.
Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président Maniendo. Et maintenant, nous allons passer au point 7, comme annoncé. Options pour les groupes de travail physiques. Rappelez-vous, ça a été dit au début de la réunion, l'an dernier, le comité exécutif était convenu que le bureau préparerait un document. Après avoir consulté les comités de coordination et les différents présidents des comités, un document esquissant d'éventuelles options additionnelles et une nouvelle série de procédures qui pourraient être utilisées, qui s'ajouteraient au manuel de procédure actuel pour les groupes qui se réunissent physiquement. L'idée étant que cette nouvelle série d'options additionnelles, encore une fois, le but ce n'est pas de remplacer les règles que nous avons actuellement pour les groupes de travail physiques, c'est simplement de proposer des options supplémentaires au comité. Et donc, ce que nous entendions faire, c'était élaborer d'éventuelles modalités de travail permettant au comité de créer des groupes de travail physiques qui permettent une véritable participation des pays de toutes les régions. Nous avons discuté avec tous les comités de coordination et moi-même, un des trois vice-présidents, nous sommes allés dans tous les comités de coordination à l'exception de un d'entre eux. Et donc, en discutant avec ces comités de coordination, eh bien, on s'est rendu compte que malheureusement, ce que l'on avait retenu, c'était surtout la participation limitée, et ça c'était dans la description de cette option. Et comprenons très bien que ça a été mal perçu par les comités de coordination, ce qui était dommage parce que c'était exactement le contraire de ce que nous entendions faire. Ce que nous voulions faire, c'était trouver des modalités nous permettant de faire en sorte qu'il y ait des participants des pays en développement et qui puissent participer de manière effective au groupe de travail physique. Maintenant, c'est vrai, nous disons que la participation est ouverte à tous, mais c'est vrai aussi que tout le monde ne vient pas. C'est-à-dire qu'il y a pour l'essentiel des participants qui viennent de pays développés. Et par conséquent, on s'est dit que, étant donné que nous n'avions pas encore accompli l'autre partie du mandat qui concernait des consultations avec les présidents, et étant donné que cette discussion s'est avérée beaucoup plus compliquée que ce à quoi on s'attendait, et je crois qu'on peut également tirer les enseignements de la discussion d'hier, ou même de la confusion que nous avons constatée en fin de journée, donc il y a peut-être des éléments dans le manuel de procédure qui devraient faire l'objet d'une évaluation supplémentaire. Et donc, on s'est dit qu'il nous fallait plus de temps, et donc le bureau propose au comité exécutif que l'on prenne encore une année pour traiter cette question, et il est proposé que le prochain bureau discute, sur la base d'études qui ont été faites d'ici là, des différentes options. Il y a encore un autre facteur qu'il ne faut pas oublier. Et c'est un problème qui est vraiment très réel. À savoir qu'il faut qu'il y ait moyen de contribuer au financement des déplacements des experts des pays en voie de développement qui vont se déplacer pour participer au groupe de travail physique. On vient d'entendre ce qui a été dit par le secrétariat du Fonds fiduciaire, qui a déclaré qu'il s'agissait d'aider les pays à participer de manière efficace aux travaux des comités. Bon, ils n'ont pas parlé des groupes de travail, mais enfin, peu importe. En tout cas, l'idée que nous vous proposons semble bien s'intégrer à cet objectif qui lui aussi semble être en général appuyé par les membres du comité exécutif. Donc, si vous êtes d'accord, eh bien nous allons demander, c'est-à-dire nous, le bureau actuel, va demander au comité exécutif de permettre au nouveau bureau, quel qu'il soit, de traiter cette question, de la développer et ensuite de vous proposer un certain nombre d'idées pour examen lors de la prochaine session du comité exécutif à l'été prochain. Je vous donne volontiers la parole pour faire des commentaires, pour faire des réflexions, pour que le prochain bureau puisse profiter de vos réflexions, de vos questions, de vos commentaires concernant cette idée, ou alors même si vous avez des encouragements à donner aussi, vous pouvez le faire. Des commentaires.
Member for Latin America and the Caribbean, please.
Membre pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Merci, Madame la Présidente. Je comprends que ce format de groupe de travail avec une participation limitée est utilisé pour la Convention internationale de la protection phytosanitaire ainsi qu'au sein de l'OIE. Et pour ceux qui ne participent pas à ces groupes d'experts, eh bien ils ne sont pas très contents. Parce qu'il y a beaucoup d'occasions de discuter des documents qu'ils ratent en ne pouvant pas participer à ces groupes. Donc, de temps en temps, on a eu des plaintes en plénière de certains pays qui n'ont pas pu participer, puisque les accords dégagés lors des groupes de travail ne pouvaient pas être changés par la suite dans les réunions plénières des comités. Donc, voilà un élément qui pourrait affecter notre décision. Mais je crois vraiment qu'il s'agit d'un thème qu'il faille analyser. Car il y a une autre question. Bon, il y a deux questions. Tout d'abord, d'où vient cette nécessité de limiter le nombre de personnes et qui décide de cette limite? Un pays qui n'a pas de fonds pour participer n'aura pas de fonds, que ce groupe soit large ou restreint. Donc, dans la pratique, ça ne changerait pas les choses. La deuxième question, c'est qui définit l'expertise des personnes qui vont participer? On dit que ce sont des groupes de travail pour en discuter des documents du codex auxquels participeraient les experts. Mais comment est définie cette expertise? Aujourd'hui, les gouvernements envoient les personnes qu'ils estiment appropriées. Peu importe pourquoi ils choisissent cette personne, puisque c'est une décision souveraine du gouvernement. Dans ces groupes, qui ne sont pas des groupes d'experts comme les groupes mixtes FAO-OMS, qu'est-ce qui définirait cette expertise? Puisqu'on parle d'experts, ce seraient des experts, les personnes expertes dans le domaine qui seraient envoyées par le gouvernement. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre question auquel il faudrait répondre? Quelles seraient ces personnes au niveau des régions? Bref, ce sont des doutes que j'aimerais voir clarifier pour que lors de la prochaine réunion, on prenne tous ces éléments en compte pour voir comment cela fonctionnerait. Merci.
Thank you, member for Latin America and the Caribbean.
Merci aux membres pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Je pense répondre rapidement à votre pouvoir répondre rapidement à votre question. Le soutien apporté aux membres des pays développés, je reconnais qu'il s'agit d'une question qui devra faire l'objet d'une coordination avec le fonds fiduciaire. Donc, pour l'heure, je ne sais pas comment on répondrait à cela. Mais il est clair qu'il est nécessaire de coordonner cette action avec le fonds fiduciaire. Deuxième point, vous avez parlé de participation limitée. Là, on parle de groupes de travail physiques, des comités, tels qu'ils sont organisés à l'heure actuelle au Codex. Donc, les gouvernements choisiraient des experts comme ils le font maintenant et ils les enverraient au groupe de travail physique. Il n'y a aucune différence. C'est exactement la même chose. Et je peux même ajouter que nous savons tous, d'après notre propre expérience, que parfois on entend des critiques des résultats de groupes de travail dans des sessions plénières, parce que tout le monde n'était pas présent. Donc c'est une question, un problème que l'on connaît déjà maintenant. L'idée de cette proposition consiste à améliorer un petit peu les choses en garantissant une participation plus large de toutes les régions du monde. Voilà notre objectif. Bien sûr, beaucoup d'efforts restent à faire, mais voilà l'idée. Le membre pour l'Europe, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. L'an dernier, lorsqu'on a parlé de ça, excusez-moi, je dois me référer à mes notes. Le bureau a décidé de poursuivre ses travaux en l'absence d'une réunion du CCGP qui avait été prévue pour 2011. On peut tout à fait parler d'idées futures pour la marche à suivre à l'avenir, mais moi j'ai simplement une question. Est-ce que le bureau a le temps, a suffisamment de temps à consacrer à cette tâche, ou est-ce qu'il vaudrait mieux la transférer au CCGP? Ce n'est qu'une question, une simple question. Je n'ai pas d'avis tranché. Le bureau pourrait peut-être émettre une proposition à soumettre au CCGP peut-être, mais je ne sais pas vraiment qui décidera de la question.
Thank you.
Merci, le membre pour l'Asie. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Avec la permission du chef de délégation, mon commentaire se fonde sur mon expérience récente en tant que vice-président d'un groupe de travail. J'ai décelé plusieurs problèmes au niveau des groupes de travail. Comme l'a mentionné le CCLAC, parfois, on a tendance à oublier, les groupes de travail ont tendance à oublier, qu'un groupe de travail est établi pour un comité. Mais les participants de ce groupe pensent être un organe indépendant. Ils veulent étendre leur mandat et leur mission. Et c'est un problème. Ce problème découle du fait que un certain nombre de participants au groupe de travail ne participent pas aux autres réunions du Codex. Deuxième point, les participants des groupes de travail ont une vision très étroite des choses. Par exemple, le groupe de travail auquel je me réfère, ce sont les microvirus et les critères, et un document a été établi sur la question. Mais le groupe de travail ne connaît pas ce document qui a été établi par ce comité, le comité chargé de la question. Donc il est très important que le président du comité père de ce groupe de travail établisse les orientations du groupe de travail, ou du moins lui donne des orientations ou des idées de travail. Si le groupe de travail prend en charge son propre destin, il peut aller n'importe où. Je crois que c'est un point très important. Donc il faut confirmer le besoin d'une relation étroite entre le comité pair et le groupe de travail qui dépend de ce comité. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un leadership plus affirmé, un engagement plus fort du président du comité dont dépend le groupe de travail. pour que le groupe de travail ne parte pas à la dérive. Merci.
Merci beaucoup, membre pour l'Asie.
S'il s'agit d'un commentaire général qui est applicable de manière générale et qui est vrai en général pour le futur sur le long terme. Membre pour le sud-ouest du Pacifique. L'OMS. Merci beaucoup. Le fonds fiduciaire a été mentionné à plusieurs reprises, donc j'aimerais souligner ce qu'on a déjà expliqué l'an dernier. Le fonds peut soutenir la participation des pays qui ont droit au groupe de travail, tout comme la participation au comité. Donc l'établissement des priorités revient aux pays concernés. Donc il faut attirer l'attention des pays concernés, il faut peut-être relever cela dans le rapport. Il revient au pays d'établir ses propres priorités. Et le commentaire qui a été fait par le conseiller pour l'Asie est un très bon point. J'ai beaucoup aimé la façon dont il l'a dit. Le groupe de travail est dédié au comité. Et le comité père, comme vous le dites, doit garder un œil sur les orientations du groupe de travail. C'est un message très important. Lorsque les pays font des demandes de participation, ils doivent bien garder cela à l'esprit et bien déceler, percevoir le lien, le groupe de travail, le comité auquel il est rattaché. Merci beaucoup à l'OMS. Alors dans les commentaires exprimés, je ne vois pas de problème à ce que l'on aille de l'avant. Donc vous avez bien parlé de la marche à suivre. Il est un peu maladroit de faire des recommandations pour un organe qui n'a pas encore été établi. Ça c'est vrai. Je suppose qu'il y a une alternative qui a été suggérée par un membre qui consistera à demander au comité des principes généraux d'entreprendre cette tâche. On pourrait demander des conseils au secrétariat sur la question. Merci, Madame la Présidente. Lors de la dernière session, nous avions déjà abordé cette question et nous avions commencé nos travaux au sein du comité exécutif puisqu'il s'agissait d'une initiative du bureau et également parce que le comité sur les principes généraux ne s'était pas réuni en 2011. Et le comité avait également recommandé que le comité demande au comité sur les principes généraux d'envisager les nouvelles options présentées dans le document. Donc, c'était une requête qui concernait le CCGP, c'était une question de procédure. Donc il se peut que les pays ou les membres du comité exécutif souhaitent inviter le président ou le vice-président à travailler sur le document et se prépare des documents pour la session à venir du comité sur les principes généraux. La décision revient au comité. Puisque lorsque l'on arrive à la session de février du comité, cela laissera peu de temps avant la réunion du comité sur les principes généraux qui se réunira en avril 2012. Ce sera l'occasion pour émettre cette proposition puisqu'il s'agit de deux procédures connexes qui seraient reflétées donc dans le manuel de procédure. Donc ce serait une très bonne possibilité. La décision revient au comité, bien sûr. On pourrait tenir une discussion générale au niveau du comité sur les principes généraux et s'il y a un accord pour apporter des amendements au manuel de procédure, ce dernier pourrait être soumis à la commission suivante pour ainsi ne pas perdre de temps. Merci. Merci au secrétariat. Alors un autre aspect de la suggestion émise par le membre pour l'Europe était le suivant. Au lieu que de laisser le bureau qui n'existe pas encore émettre une proposition, peut-être que la demande pourrait être adressée directement au comité sur les principes généraux pour qu'il prenne en charge cette question. Et votre question, et oui, cela est possible. On pourrait faire cette demande en tant que comité exécutif. On pourrait recommander à la commission que le comité sur les principes généraux s'engage dans cette voie pour évaluation et l'identification d'options. Je vois maintenant le membre pour le sud-ouest du Pacifique.
Merci. Il s'agit d'une réflexion et d'une réaction de ma part. Je crois qu'il faut faire attention à un point. Quel est le problème véritablement? Voilà ma vision des choses.
Alors, la question concerne l'équilibre des comités et des groupes de travail, comment ils travaillent et comment ils font leur rapport auprès de la plénière et quels sont les domaines dans la gestion des comités dans lesquels on rencontre des difficultés. Mais de façon plus fondamentale, quel est le problème? J'aime beaucoup l'idée de laisser le comité sur les principes généraux prendre les devants. Plutôt que d'avoir des recommandations sur les groupes de travail, la première partie du travail, je crois, consiste à identifier les faiblesses et de collecter des données par rapport à ces faiblesses. S'il y a un problème de participation au groupe de travail, d'après les présidents, cela s'explique par un manque d'engagement de certains pays en voie de développement dans ces groupes de travail. J'ai présidé à plusieurs de ces groupes et on peut voir qu'ils présentent des avantages certains, mais il faut faire attention à ce qu'ils ne deviennent pas des sessions plénières parallèles qui feraient doublon en une même année. Évidemment, on arrive à un point où on accélère l'établissement des normes, mais je crois qu'on a des efforts de plusieurs dizaines d'années pour établir des normes, si on tient des réunions tous les deux ans. Donc avant d'investir beaucoup de temps dans cette voie, il faut faire attention à ce que l'on va véritablement demander au groupe de faire, quelle mission on va lui confier et sur quoi se fonde cette mission. Merci beaucoup, membre pour le Sud-Ouest du Pacifique. C'est une très bonne remarque que nous avons entendu à maintes reprises sur la base de l'expérience d'un pays qui vous est très proche. Au niveau géographique et littéralement même. Et c'est également l'expérience de la Nouvelle-Zélande et du comité sur l'hygiène pour la viande, avec un groupe de travail qui jouissait d'une bonne représentation, avec un nombre plus restreint de participants, et qui a très bien travaillé, très rapidement, avec un bon soutien du comité maire. Donc, c'est un bon exemple de la façon, de l'efficacité avec laquelle peut travailler le Codex. Et j'ai entendu cet exemple, à plusieurs reprises, il était cité comme une bonne manière de travailler efficacement. Donc voilà un aspect de cette idée. Oui, ça peut fonctionner puisque ça a marché par le passé. Donc, nous allons nous inspirer de cette expérience et voir s'il y a des leçons à tirer de cette expérience. À l'heure où on va essayer d'identifier de nouvelles options. Et moi, j'insiste sur le fait que on va demander au comité sur les principes généraux de trouver une série d'options alternatives. Les règles du manuel de procédure ne sont pas remises en question. Il s'agirait simplement d'une nouvelle approche qui serait disponible pour les comités. Est-ce que vous voulez réagir ? Pacifique Sud-Ouest, et ensuite je donne la parole aux membres pour l'Afrique. Alors d'abord le Pacifique Sud-Ouest. Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais il y a un argument contraire à relever également. Mon collègue en Nouvelle-Zélande a organisé un très bon groupe de travail et des résultats très rapides peuvent être dégagés, mais tout cela dépend de l'ordre du jour. Et ce que j'ai pu remarquer, surtout pour les groupes de travail physique, c'est que lorsque l'on affronte des travaux
très difficile, eh bien, il est presque impossible d'obtenir des résultats en plénière. D'après ma propre expérience, il est préférable d'avoir un groupe de travail physique qui est tout aussi complexe. On peut tenir des discussions très complexes dans cet espace de discussion, avec 3 jours pour passer en revue les questions de l'ordre du jour. Ensuite, on peut avoir des commentaires en plénière sans pouvoir vraiment comprendre les références, les cadres de référence, le cadre conceptuel des délégués, ce qui laisse un vide entre ces discussions et la résolution du problème. Donc très souvent, avec ces groupes de travail, en fonction du type de question que l'on essaie de résoudre, je crois qu'il vaut toujours mieux qu'ils agissent en tant que miroir des plénières. Il faut toujours consacrer suffisamment de temps pour résoudre ces questions. Alors, il faut attirer de nouveaux arrivants, les intéresser à l'ordre du jour. On peut consacrer 4 ou 5 jours pour identifier les questions à résoudre et quelle est la marche à suivre. Et cette opportunité n'existe pas dans les plénières. Donc on pourrait demander au GP de prendre en compte ce type de réflexion. Le comité pourrait suggérer des possibilités au groupe de travail, ce qui apporterait des outils supplémentaires pour répondre à ces questions complexes. Merci aux membres pour le Sud-Ouest du Pacifique. Alors un outil supplémentaire, c'est une proposition de travail acceptable. On a presque l'impression que vous vous portez volontaire pour participer à ces travaux. On pourrait s'attendre à cela, je crois. Le membre pour l'Afrique, s'il vous plaît. Merci, Madame le Président. Sauf votre respect pour ce qui est du CCGP, nous vous rappelons qu'au sein du CCA Afrique, on a beaucoup débattu de cela. Nous espérions que le CCGP pourrait réexaminer certains rapports. Et nous avons un rapport au paragraphe 33 avec plusieurs préoccupations du CCA africain. Il serait bon que ces préoccupations soient prises en compte. Je ne vais pas lire le paragraphe car il est très long. Merci aux membres pour l'Afrique. Oui, le comité des principes généraux pourra profiter des discussions ici ainsi que des rapports du comité. Si je peux conclure. Donc, la conclusion du comité consiste à envoyer une demande au comité des principes généraux par le biais de la commission pour que des travaux soient engagés pour l'élaboration d'orientations potentielles alternatives pour les groupes de travail physique de façon à garantir une participation régionale effective de toutes les régions du monde afin d'accélérer les travaux le plus possible. Merci beaucoup. Nous avons donc conclu ce point. Donc, lorsque je suis intervenu lors de l'adoption de l'ordre du jour, je crois me souvenir avoir dit que nous souhaitions discuter des possibilités pour le comité exécutif de réfléchir sur les défis qui pèsent sur la commission à l'heure où on passe au 21e siècle et à l'ère des nouvelles technologies, des technologies de l'information qui ont changé notre manière de travailler au quotidien. Nous travaillons de plus en plus dans nos agences avec des systèmes de visioconférence et à l'avenir, il est certain que la technologie de l'information aura un impact sur nos méthodes de travail au sein du Codex et peut-être même qu'elle pourrait apporter des solutions nouvelles face au problème de la participation. Mais l'avenir n'est pas clair et les enjeux sont importants. Alors, on a un problème de bande passante évidemment, mais également des contraintes financières. au niveau des organisations avec lesquelles nous travaillons, la FAO et l'OMS. Donc, j'ai une proposition à vous faire après avoir discuté de cette idée avec le secrétariat. Si cela vous convient, si cette idée vous convient, nous pourrions demander au secrétariat de préparer un document sur les systèmes disponibles à l'heure actuelle qui peuvent être utilisés de façon pratique. Nous savons bien que nous avons connaissance des groupes de travail qui ont été préparés en Argentine, par exemple, et qui sont un bon exemple de ce qu'on pourrait faire au sein du Codex. Mais lorsque l'on se penche sur de tels systèmes et sur les moyens pratiques de les utiliser, donc la gestion d'un groupe électronique comme Martin Niemann l'a fait, cette gestion nécessite énormément d'expertise et énormément de temps. Donc le secrétariat se pencherait sur le côté pratique de la question, ses avantages, les difficultés, les contraintes et les coûts. Toutes ces informations seraient ensuite présentées au comité exécutif l'an prochain. Donc si vous êtes d'accord, ça nous permettrait de progresser sur ce thème, en reconnaissant qu'il existe des possibilités, des opportunités, mais également des défis. Des réactions. Je ne vois pas de demande d'intervention. Nous allons donc procéder ainsi et nous remercions chaleureusement le secrétariat d'être prêt à penser créativement pour nous, Monsieur Allen.
Next.
Ensuite, nous passons donc, nous en sommes aux autres questions, point 8. Il y a plusieurs points qui avaient été suggérés. Je crois qu'il y en a 3. Une question soulevée par le coordinateur pour l'Amérique latine et les Caraïbes concernant le mandat du comité pour les fruits et légumes frais tel que établi dans un document de salle, un document de conférence, enfin je ne sais pas, en tout cas il a été distribué par la Colombie ou pas, je ne suis pas très sûr, c'est pas très clair. Une demande, donc une invitation à discuter de la retraite des présidents et la marche à suivre, et aborder les avantages du processus ami du président, certaines des leçons apprises et les aspects positifs de cette expérience. Donc nous pourrions tout d'abord commencer par les fruits et légumes frais. Et je me tourne vers le coordinateur pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Merci beaucoup, Madame le Président. La délégation de la Colombie m'a demandé, en tant que coordinateur du CCLAC, de présenter ce document que vous ne semblez pas avoir à votre disposition, mais qui sera présenté à la Commission. Alors, en tant que président du comité, j'aimerais vous parler de ce que j'ai cru comprendre. Il existe un sentiment généralisé de vouloir faire une interprétation du mandat par rapport à ce comité. En effet, ce mandat parle d'un processus de consultation, alors que dans les réunions, on parle beaucoup d'harmonisation des normes. Donc si l'objectif de ce processus de consultation est l'harmonisation, qu'est-ce qu'implique cette harmonisation? Ça implique qu'on aura deux normes identiques, une dans la CP et l'autre dans le Codex, ou est-ce que ça implique qu'un certain niveau de flexibilité sera envisagé. En ce sens, on pense qu'il est important de considérer que si la CP est ouverte à tous les membres des Nations Unies, dans la pratique, il s'agit d'une institution régionale, puisqu'il s'agit d'un petit nombre de pays non européens qui participent aux travaux, alors que le Codex, lui, a beaucoup plus de membres, des membres très divers, donc il est nécessaire au niveau du Codex de préciser les circonstances et les intérêts en jeu. Dans ce sens, les normes du Codex doivent être beaucoup plus flexibles et beaucoup plus englobante que celle de la CP.
Dans ce sens, j'aimerais que l'interprétation du mandat soit donc examinée. Merci.
Thank you, coordinator for...
Merci au coordinateur pour l'Amérique latine et les Caraïbes. La secrétaire pourrait peut-être nous lire le mandat pour les fruits et légumes frais et nous clarifier les questions spécifiques qui ont été soulevées dans cette commission avec l'adoption, pour ce qui est de l'adoption de normes émanant donc de ce comité sur les fruits et légumes frais. Madame la secrétaire. Monsieur le secrétaire, merci beaucoup. Alors, le mandat, bon, je devrais peut-être lire le mandat dans son entier. Donc, élaborer les normes et codes d'usage internationaux qu'il jugera appropriés pour les fruits et légumes frais. Point B. Consulter le groupe de travail de la CEENU sur les normes de qualité agricole en vue d'élaborer des normes mondiales et codes d'usage en veillant particulièrement à éviter les doubles emplois et à respecter la même présentation générale. C'est consulter au besoin les autres organisations internationales. Alors, il y a une note de bas de page au point B qui nous dit que le groupe de travail sur les normes de qualité agricole de la CEENU peut 1. recommander que soit élaborée une norme mondiale codex pour des fruits et légumes frais et que des recommandations soient soumises à l'examen du comité du codex sur les fruits et légumes frais et à la commission pour adoption. 2. Préparer des avant-projets de normes pour des fruits et légumes frais à la demande du comité du codex sur les fruits et légumes frais ou de la commission aux fins de distribution par le secrétariat du codex à l'étape 3 de la procédure du codex qui feront l'objet de mesures ultérieures de la part du comité du codex sur les fruits et légumes frais. 3. Examiner les avant-projets de normes et les projets de normes pour des fruits et légumes frais et communiquer sur ces observations au comité du codex sur les fruits et légumes frais aux étapes 3 et 6 de la procédure du codex. Et 4. Effectuer à la demande du comité du codex sur les fruits et légumes frais des tâches spécifiques en rapport avec l'élaboration des normes pour les fruits et légumes frais. Les avant-projets de normes et projets de normes codex pour les fruits et légumes frais parvenus aux étapes 3 et 6 de la procédure du codex devraient être soumis au secrétariat de la CEENU pour les observations. Voilà donc ce que l'on trouve dans le mandat du CCFFV. Certaines parties de ce mandat n'ont jamais été invoquées, n'ont jamais été utilisées. Alors, ce qu'on trouve en bas de page, au point 1, 2, donc 1 et 2 n'ont jamais été utilisés. Donc, la CEENU, on n'est jamais arrivé à l'étape 3 pour ce qui est des avant-projets de normes codex. On avait pourtant une proposition donc, qui avait été faite par un groupe de travail mixte qui avait été réuni par le projet de l'OCDE entre le secrétariat du codex et de l'OCDE qui recommandait si le codex voulait élaborer des normes pour lesquelles d'autres produits étaient concernés, on pouvait directement aboutir à l'étape 3 pour avoir un avant-projet dans lequel seraient incluses les autres considérations du codex. Cela a fait l'objet de longues discussions au niveau de la commission. Ça a été rejeté au final. Donc nous avons une partie du mandat qui n'est jamais invoquée. D'autres parties peuvent être peu claires, ce qui semble causer des problèmes au niveau du comité. Des problèmes dans ce comité, donc il serait sans doute nécessaire d'en parler.
Thank you, Secretary. The specific issue being raised now.
Merci au secrétariat. Problème dont on parle, c'est que la CEONU s'est déclarée opposée à l'adoption d'une norme et a déclaré qu'il n'y avait pas eu de consultation avec elle. Donc, ils seraient opposés à cette norme simplement s'ils n'ont pas été consultés. Je ne sais pas, le président du comité qui est coordinateur du CCLAC également, est-ce que c'est bien ce que j'ai compris ou ce que j'ai bien compris? Merci. Oui, en effet, CEONU était présente à la dernière réunion du comité qui a eu lieu le 5 mai de cette année. Et suite à un message de sa réunion, où on a parlé de cette norme, et plusieurs choses n'ont pas pu être abordées. Et donc on a décidé qu'on ne proposerait pas la norme, alors que le comité des fruits et légumes avait déjà passé ou était déjà passé à l'étape 5-8. Cela étant dit, bon, ils étaient là, mais ils n'ont pas fait de commentaires. Et donc, je ne comprends pas très bien pourquoi on est dans cette situation maintenant. Merci.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, coordinateur CCLAC, membre pour l'Europe. Merci, Madame la Présidente. Pour être au clair, j'ai un extrait du rapport de cette réunion avec la CEONU. C'est légèrement différent par rapport à ce que vous dites. Il semblerait que la section spécialisée pensait qu'il était utile de demander à la commission du Codex de proroger ou de reporter à plus tard la décision concernant le Chili. Et donc, on a proposé que l'on vérifie si un temps supplémentaire était nécessaire. Enfin, bref, on a proposé que l'on reporte l'adoption dans l'attente de la poursuite des consultations des pays. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est les pays de la CEONU ou d'autres, mais donc, il faut être au clair sur ce dont on parle ici, parce que ça aura sinon une incidence sur le mandat du comité. Merci aux membres pour l'Europe. Donc, demander à ce qu'on maintienne à l'étape 8, s'opposer à l'adoption, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, d'après ce qui a été dit par le secrétariat, on n'a pas encore reçu de commentaires écrits de la part de la CEONU. Donc, le but de cette discussion, c'est pas que l'on demande des conclusions au comité exécutif. Simplement, il s'agit de voir comment on peut procéder à une nouvelle évaluation du mandat. Surtout si c'est des textes assez longs et qui ne sont peut-être pas suffisamment clairement libellés, etc. Donc, ça pourrait être notre recommandation concernant la poursuite du travail sur le mandat. Et donc, je demanderai au secrétariat de nous proposer une marche à suivre. Une marche à suivre qui soit réalisable et pratique. Merci, Madame la Présidente. Oui, ça va être discuté également à la Commission. Ça concerne le mandat d'un comité spécifique, et donc normalement, on en discute d'abord au comité concerné, parce qu'il y a eu quelques discussions apparentées, et le comité fruits et légumes frais pourrait réexaminer son mandat. Ça s'est fait dans d'autres comités déjà. Donc on pourrait en discuter d'abord au sein de ce comité fruits et légumes frais, et puis ensuite la commission en parlera également de manière générale. Mais enfin, normalement, c'est chaque comité qui est responsable de son mandat. Donc il appartiendrait au comité d'examiner son mandat, et si jamais il y a un changement proposé, on passe à la procédure normale, c'est-à-dire qu'on va au comité des principes généraux et si nécessaire ensuite à la commission. Enfin, en général, les mandats des comités sont d'abord discutés dans les comités intéressés. Merci. Très bien, merci Madame la Secrétaire. Donc on peut conclure que la recommandation du comité exécutif adressée à la commission, c'est que la commission demande au comité des fruits et des légumes frais de revoir son mandat et de proposer des modifications et ensuite de transmettre cela au comité des principes généraux. Est-ce que vous avez des objections à cette proposition? Je ne vois pas de pancarte. Merci. Donc c'est la conclusion qu'on va tirer. Et puis, je vous propose maintenant de passer à la question des présidents des comités. Et ça concerne en fait des retraites à des dates déterminées où on peut discuter de questions telles que les moyens de parvenir à des consensus. Et en fait, nous avions eu une excellente retraite des présidents qui a permis d'avancer sur certains éléments, notamment un formulaire d'évaluation qu'on utilise maintenant dans tous les comités subsidiaires et autres. Alors, est-ce que vous avez des commentaires? Le membre de l'Europe avait fait un commentaire sur ce point. Je peux vous dire que lors de la réunion informelle prévue pour les présidents, nous avons l'intention de discuter des retraites que nous aimerions avoir et d'éventuels thèmes à discuter lors de ces retraites, peut-être dans quelques années. Je ne sais pas, peut-être que tous les 2 ans serait une bonne fréquence. Cela étant dit, je voudrais simplement aborder cette question pour qu'on puisse en discuter ensemble. Si vous avez des commentaires ou des questions, eh bien, je répondrai à ces questions, bien sûr. Et les vice-présidents, je crois qu'il n'y a pas d'autres présidents ayant participé qui soient dans la salle. Mais enfin, bref, vous avez la parole pour des commentaires ou des questions. Monsieur le vice-président David. Merci, Madame le Président. Pendant l'adoption, ou au moment de l'adoption de l'ordre du jour, le premier jour, le membre de l'Europe avait déclaré qu'il souhaitait avoir un compte-rendu concernant la retraite de l'an dernier. Non? En tout cas, c'est ce que j'ai gardé dans mon souvenir.
Member for Europe, please.
Le membre pour l'Europe. Merci, Madame le Président. Simplement une précision, je n'étais peut-être pas clair à l'époque. J'avais simplement poser une question. Je demandais quelles étaient les intentions concernant les prochaines retraites des présidents. Est-ce que ça avait été utile? Et ensuite, j'avais ajouté un commentaire relatif à la procédure des amis des présidents. Je veux savoir comment ça s'était passé. Je n'avais pas demandé quel était le résultat de la réunion, mais je voulais simplement savoir comment ça s'était passé. Merci aux membres pour l'Europe. Et merci au vice-président Dabier. Le membre pour l'Amérique du Nord. Merci. Nous accueillons, nous hébergeons 4 présidents de comité. Donc je voulais dire que nos présidents ont trouvé que cette retraite était très utile. Et cette semaine, on a constaté, quand on a discuté, qu'il y avait des cas où certains comités n'avaient pas fonctionné de manière cohérente. Et donc certains d'entre nous avaient notamment posé des questions de procédure concernant certains comités. Ce qui montre bien que il faut que les présidents aient l'occasion de se rencontrer pour discuter des problèmes, des difficultés qu'ils rencontrent, et éventuellement de s'entraider, et aussi pour promouvoir une cohérence pour ce qui est de la procédure. Cette cohérence de procédure, c'est ce que nous appelons également de nos voeux dans les différents comités. Merci beaucoup aux membres de l'Amérique du Nord. Bien, je puis vous dire que c'est en général ce qu'ont éprouvé les présidents, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé que le fait de discuter de leurs expériences était utile, simplement parce que les comités n'ont pas les mêmes personnalités et les présidents n'ont pas les mêmes relations avec leurs comités. Et parfois, il est surprenant d'apprendre comment les choses marchent dans certains comités par rapport à d'autres. Même si on utilise les règles de procédure de la même manière, de manière uniforme. Donc si le comité exécutif est d'accord, eh bien nous allons déclarer que nous sommes favorables à la poursuite de ces retraites pour les présidents à un rythme donné. Enfin, moi je propose une fréquence de 2 ans, donc tous les 2 ans, pour autant que les budgets soient disponibles pour cela. Et s'il n'y a pas d'objection à ma proposition, une objection? Une précision, le membre pour le Pacifique du Sud-Ouest. Je réfléchis parce que plusieurs d'entre nous sont des gouvernements hautes. Bon, quand on parle de retraite, on pense plutôt, vous savez, au spa, enfin là où on va. Bon, il n'y avait pas d'alcool non plus. Enfin bref. Plutôt que de parler de retraite, on pourrait peut-être parler d'atelier. L'objectif de l'atelier était de partager les expériences pour ce qui est de la conception du codex, etc. Donc ça, c'est peut-être utile. Donc, si vous voulez. Mieux vous parler d'atelier, ça permettrait à certains d'entre nous de venir de se déplacer. Merci beaucoup. Oui, vous avez accueilli des réunions, notamment dans un endroit qui s'appelle Surfers Paradise, le paradis des surfeurs. Donc j'imagine que vous avez vraiment de l'expérience en la matière. Donc je comprends bien ce que vous dites et le sens de votre intervention.
Are we capable, in fact, given the rules of using...
Alors, tout en tenant compte des règles, est-ce qu'on peut parler, non pas de retraite, mais d'atelier pour les présidents? Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème de procédure, en tout cas. D'accord. Eh bien, dans ce cas, on va les appeler les ateliers monastiques des présidents. Non, je plaisante. Ce seront les ateliers des présidents. D'accord, parfait. Merci beaucoup de votre proposition et donc l'argument qui nous était présenté par le membre du Pacifique du Sud-Ouest est tout à fait pertinent. Voilà. Merci à tous, d'ailleurs, de votre soutien. Je le dis au nom des présidents. La dernière question m'a été posée par le membre de l'Europe. On m'a demandé de dire comment a fonctionné cette procédure des amis des présidents. Bon, c'est ce qu'on a, c'est une procédure qu'on trouve à la FAO, à l'OMC, ailleurs aussi. Enfin, on ne l'a jamais vraiment utilisé au Codex, mais enfin, c'est tout à fait légitime d'avoir ce genre de modalité. Eh bien, je peux vous dire que nous avons travaillé avec à nos côtés un négociateur professionnel qui a fait de son mieux pour agir en tant que médiateur pendant ces réunions. Et comme vous le savez, Le groupe a fait deux propositions. La première, qui est favorable, et la deuxième qui n'est pas favorable à l'adoption. Les deux prévoient un certain nombre d'activités avec des échéances différentes, ça dépend des propositions, et donc ça permettrait d'examiner d'autres questions. Et pour ceux qui sont pour, eh bien ça se solderait par la résolution du problème. Mais ce qui ne sort pas clairement de ces deux propositions, c'est que les discussions lors de ces trois réunions la discussion a suscité un certain nombre d'idées très créatives, des idées qu'on n'aurait jamais pu trouver en plénière, et qui en fait n'avaient jamais été discutées comme pouvant être des solutions possibles à ces problèmes. Les réactions des membres des amis du président, et d'ailleurs il y a des membres ici présents qui ont participé à ces réunions, et je pourrais tout à fait leur demander de faire des commentaires et donner leur point de vue. Mais en tout cas, les membres ont dit que ces discussions étaient très différentes de toutes les discussions jamais connues au Codex. C'était plus ouvert, plus franc, plus sincère, plus libre, beaucoup plus libre et franc qu'ils n'auraient pu l'imaginer au Codex, et donc ils ont trouvé que c'était vraiment très encourageant. Parce que si on peut faire ce genre de choses au Codex, et j'ajouterais qu'il vaudrait mieux le faire avant qu'un document ne soit maintenu à l'étape 8, eh bien si ça c'est possible, eh bien on aura la possibilité d'éviter que les questions ne deviennent tellement problématiques vers la fin de leur durée de vie, en quelque sorte. Donc je crois que tous les membres, à l'égard, ou à l'exception de l'une d'entre elles peut-être, alors je veux dire qu'il y avait une excellente participation, c'est-à-dire que tous les membres invités ont participé à quasiment toutes les réunions, ce qui reflète également le niveau d'engagement, qui est véritablement impressionnant. Donc, à l'exception d'une personne, tous les membres ont trouvé ça, ces discussions très encourageantes, très enrichissantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de frustration de temps à autre. Cela étant dit, je peux me tourner vers le membre pour l'Amérique du Nord, ou le coordonnateur pour l'Afrique, qui les deux ont participé, donc je voudrais que vous nous donniez votre point de vue. L'Amérique du Nord? Merci, Madame le Président. En fait, je me rallie à la plupart des commentaires que vous avez faits. Ce processus, compte tenu de la taille du groupe et compte tenu du mandat qui lui a été confié, ce processus a permis une discussion vraiment très ouverte. Et on avait vraiment discuté des véritables obstacles, des véritables entraves qui sont les raisons pour lesquelles chacun des groupes avait adopté sa position. Et donc, les points qui ont été discutés vont au-delà de ce qu'on entend lors d'interventions régulières en séance plénière, où vous avez encore une position et vous avez une motivation, mais c'est peut-être pas la véritable motivation qui explique la position qu'on défend. Donc il y a cet élément de franchise, d'ouverture, de sincérité. Je crois que ça, c'était vraiment quelque chose de très utile. Et c'est vrai que parfois, ça nous a permis d'avoir des discussions un peu difficiles. Alors c'est vrai qu'on n'a pas pu dégager une position unique en fin de compte, mais puisque vous avez parlé de la manière dont ça s'est passé, enfin, membre pour l'Europe, qui a demandé comment ça s'est passé, eh bien le processus qui a été choisi nous a permis d'avoir ce genre de discussion, et ça nous a permis d'aborder un certain nombre de points qui devront être discutés par la Commission en tant qu'organisation pour l'avenir. Donc je crois qu'en fin de compte, tout le monde est sorti de là avec le sentiment que les questions qui ont été discutées seront probablement rediscutées durant la Commission, enfin durant la durée de la vie de la Commission. Alors, coordinateur pour l'Afrique et le membre pour l'Asie, je vous demanderai également de faire vos commentaires. Parce que moi, je regardais de ce côté-là, vous n'étiez pas dans mon champ de vision, et le membre pour l'Amérique latine également a demandé la parole. Il nous reste à peine environ 7 minutes, 8 peut-être. Donc, soyez brefs, s'il vous plaît. Tout d'abord, le coordinateur pour l'Afrique. Merci, Madame le Président. Je dois dire que c'était vraiment une expérience tout à fait unique pour moi que d'être à ces trois réunions des amis des présidents. Donc c'était vraiment très différent de ce qu'on connaît ici. Les discussions, en effet, étaient franches et ouvertes. Il y avait des options, des alternatives évoquées, évaluées, réévaluées. Donc je crois que ça a permis vraiment de discuter avec franchise. Et donc, en effet, on a proposé des alternatives, des solutions alternatives qui n'avaient jamais été proposées quand on était en plénière. Et donc, on a proposé d'éventuelles solutions pour examen. Et pour moi, je dois dire que c'était très enrichissant. Et donc, on constate que les questions ne sont pas coulées dans le bronze. Il y a une certaine flexibilité. On se rend compte qu'il faut de la flexibilité pour maintenir l'intégrité de cette organisation. Donc je veux dire que l'expérience a été absolument positive. Merci. Oui. Merci, Madame le Président. Je suis tout à fait d'accord avec les deux orateurs qui viennent d'intervenir avant moi. Je voulais simplement ajouter quelque chose. J'ai participé à la réunion des amis des présidents, notamment pour l'étiquetage, etc. Enfin bref, c'était l'occasion d'examiner notre activité de manière objective. Ça nous a permis de savoir ce que pensaient ceux qui étaient opposés, enfin, ou ceux qui avaient un avis contraire au nôtre. Et on nous a demandé de réfléchir aux solutions du problème. Mais on nous a demandé d'adopter un point de vue objectif et non pas partisan. Et on a constaté qu'il était possible de trouver des solutions acceptables par les deux parties. Donc le groupe a vraiment réfléchi à la manière de parvenir à un consensus en tenant compte non pas uniquement de l'intérêt de son propre pays, mais enfin en tenant compte des intérêts des uns et des autres. Merci. Merci aux membres de l'Asie. Je crois que tous les trois vous avez déclaré que les deux démarches étaient un petit peu différentes. Il y avait la raison facilité, notamment sur le texte sur les biotechnologies. Ça a permis de trouver un compromis. Et ensuite, l'autre discussion qui n'a pas encore donné lieu à un compromis, mais cela étant dit, il reste quand même de l'espoir. Ce qui est important, c'est que le simple fait de discuter et de négocier, c'est un processus qui est tellement important que ça nous a permis de défricher des territoires inconnus au Codex. Et on a appris également que ça nous a forcé à nous préparer à réfléchir, à analyser à un niveau qu'on n'avait jamais atteint avant ce genre de discussion. Et ça, c'était vraiment très positif. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis persuadé que c'est de cette façon-là que le Codex va pouvoir progresser. C'est-à-dire qu'il faut développer ses compétences, il faut également apprendre à se préparer à ce niveau-là. Il faut apprendre aussi à communiquer les uns et les autres de cette manière-là, avec la possibilité pour les présidents d'être des médiateurs, eh bien je crois que ça nous permettra vraiment d'arriver à maturité en tant qu'organisation à l'avenir. Je pense que c'est tout à fait conforme aux principes de base du Codex, c'est-à-dire l'ouverture, la transparence et l'inclusion. Le membre pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Merci. Oui, nous n'étions pas au groupe des amis du président. Cela étant dit, c'est une pratique qu'on trouve dans beaucoup d'organisations. Et donc, nous pensons que c'est très important. Justement, parce que la différence entre cette démarche et d'autres, c'est que les délégués peuvent y participer. Et parfois, il y a des arguments formels, mais ce que cachent ces arguments formels apparaît. Et donc, quand on en parle, eh bien, ça permet de trouver des solutions qui n'étaient pas prévues. Ou ça n'avait même jamais été envisagé, simplement parce qu'on estimait que la partie adverse allait dire le contraire. Bref, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en réunion formelle parce qu'on risque d'ouvrir la boîte de Pandore. Donc, à mon avis, et c'est vraiment un outil qui est très efficace et très important. Et je pense qu'il faudra que le Codex, dans les années à venir, examine d'abord formellement, en groupe, d'autres modalités pour parvenir à des consensus qui respectent les décisions des uns et des autres, mais qui facilitent le dialogue. Parce que c'est vrai qu'en plénière, parfois, on prend des décisions qui suscitent un certain malaise éventuellement, alors que ce genre de réunion, ça permet vraiment de faciliter le dialogue. Merci.
Thank you very much.
Merci aux membres pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Sur ce point positif, je crois que nous allons achever nos discussions. Donc c'est une marche à suivre très positive pour la Commission. J'espère qu'au fil des ans, vous aurez tous l'occasion de participer à ce processus. Et j'espère qu'à mesure que l'on élabore ce manuel de compétences de négociation pour les présidents et donc de négociation pour les délégués, de médiation pour les présidents, nous pourrons mettre à profit ces outils pour mieux travailler en poursuivant les objectifs que nous avons établis au sein de ce comité. Je vous remercie beaucoup pour vos excellents efforts au cours des derniers jours. Nous remercions les interprètes. Merci Madame la Présidente. Et je lève la séance. Merci beaucoup. Alors, une note du secrétariat concernant ce qu'on fait et qui est le plus important, c'est l'adoption du rapport.
Thank you, Madam Chair. Yes, it will be the report.
Merci. Oui, le rapport sera disponible à 13h. L'adoption du rapport se fera de 14h à 17h vendredi. Donc, on se réunit pour l'adoption à 14h et le rapport sera disponible une heure avant à 13h vendredi. Merci. Merci aux délégués. Merci pour votre travail et je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne matinée demain.